Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre d'un genre nouveau, puisque j'ai la chance de recevoir Christophe Ponce-Capitaine, qui est carnétiste. Carnétiste, c'est un mot que vous ne devez pas tous connaître. C'est quelqu'un qui, à l'époque de Léonard de Vinci, puisque ça a été notre premier carnétiste, faisait sur ses petits carnets, prenait des notes et faisait des peintures pour pouvoir transmettre un message, le message de ce qu'il pensait et de ce qu'il voyait. Christophe Ponce-Capitaine est carnétiste et il est carnétiste sur la Montagne Noire. C'est le thème que nous allons retenir aujourd'hui, mais pas que sur la Montagne Noire. Mais le livre que nous retenons aujourd'hui, Forêt, est un carnet sur la Montagne Noire, donc tout près de chez vous, chers amis auditeurs. Christophe Ponce-Capitaine, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais un petit peu vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, ce qui est une grande lacune. Vous êtes Toulousain d'origine.
Tout à fait.
Voilà, vous avez 57 ans, vous avez fait les Beaux-Arts à Toulouse, plutôt genre classique, et vous êtes aussi un aventurier incroyable, puisque vous avez décidé de vous installer pendant un an dans la forêt d'Arfon. Chers amis auditeurs, Arfon est à 1h30 de Toulouse. C'est dans le triangle Castelnaudary, Mazamet, Revel. Donc, c'est pas loin de chez vous. Vous avez passé un an dans la forêt pour peindre et découvrir la forêt et nous rapprocher de nos origines, peut-être. Alors, cher ami Christophe Ponce-Capitaine, pourquoi avez-vous fait ce choix de passer un an en 2021 dans la forêt d'Arfon, qui est quand même une forêt glaciale, parce que je ne sais pas à quelle altitude elle est, mais elle est quand même... À vous la parole. Pourquoi ce choix?
Alors, c'est une montagne, on appelle ça une moyenne montagne, c'est-à-dire qu'elle est à entre 700 et 900 mètres, et elle a des caractéristiques un peu particulières, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et mon choix, c'est un choix un petit peu naïf, je dirais, même avec beaucoup de non-connaissance. En fait, c'est la non-connaissance qui m'a poussé. C'est-à-dire que ayant beaucoup voyagé, en fait, j'étais en contact avec des groupes en fait qui étaient très proches de la nature. Par exemple, des pygmées en Centrafrique ou des badjos en Indonésie. Et ce qui m'étonnait beaucoup, c'est la connaissance qu'ils avaient de leur milieu et la relation qu'ils avaient avec leur milieu, c'est-à-dire à la fois une pratique, ils connaissaient quasiment, savaient nommer à peu près tout ce qui était autour d'eux.
Oh là là, comme c'est loin de nous ça.
Oui, et ensuite une pratique, je dirais, ce sont des animistes, donc ils ont une pratique un peu magique aussi avec la nature. Et souvent, en fait, moi, je fais du reportage, c'est-à-dire que mes carnets sont des carnets documentaires, c'est-à-dire à la fois du dessin, de la peinture, mais c'est pour renseigner, c'est pour à la fois apprendre, parce que j'aime bien faire cette démarche-là, et donner à connaître, c'est-à-dire je suis un vulgarisateur, on pourrait dire, en fait, c'est un peu mon métier, c'est une sorte d'artiste comme ça, un peu particulier.
C'est formidable pour nous.
Alors ça, c'est un mouvement qui existe depuis au moins une vingtaine d'années en France. Les carnétistes, on est voués un petit peu à ça. Alors, la plupart du temps, on vient du milieu soit de l'architecture, soit naturaliste, soit du milieu de la peinture. Et on a peut-être un souci, peut-être une envie de faire partager par à la fois la peinture et l'écrit, ce que l'on vit.
Parce qu'alors, les carnétistes, il y en a quelques autres que vous, parce que pas très connu quand même.
Non, c'est pas très connu, mais je pense que d'ici quelques années, on sera aussi connu que les auteurs de bandes dessinées, par exemple, parce qu'il y a en France plusieurs festivals de carnets de voyage, et notamment le plus grand, c'est celui de Clermont-Ferrand.
Festival du carnet de voyage à Clermont-Ferrand?
Tout à fait, oui. Et qui existe depuis une bonne vingtaine d'années et qui rassemble quand même, enfin, qui amène un public d'environ 20 000 personnes sur 3 jours.
D'accord.
Qui se passe au mois de novembre.
Ah oui, donc cette année, vous allez y aller?
Oui, bien sûr.
D'accord, en novembre, donc à Clermont-Ferrand.
Tout à fait.
Ça, c'est très intéressant. Mais alors, je précise à nos amis auditeurs que pour être carnétiste, il faut savoir peindre et écrire. Là, il faut la double casquette.
C'est ça.
Être observateur.
Alors, on a chacun nos petites casquettes et avec des qualités plus ou moins importantes sur certaines choses. C'est-à-dire que j'ai rencontré il y a quelques années plutôt des auteurs écrits qui s'essayaient au dessin et qui, petit à petit, sont devenus de bons dessinateurs.
À force de s'exercer.
Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est la passion aussi. C'est-à-dire que le goût de transmettre et l'envie, c'est assez prenant, en fait, de faire un carré de voyage. On s'implique dedans, on a une relation à la fois avec le lecteur, mais ça sera pour plus tard. Mais au départ, c'est une relation avec la nature, et ensuite, c'est les gens qui font cette nature-là. Et là, il y a une relation humaine, et donc on a une responsabilité aussi. De passage, et donc ça a tendance à nous impliquer énormément, en fait, dans ces démarches-là. Donc je pense qu'on est très investi, et donc chaque carnet s'améliore un petit peu, et année après année, en fait, on invente tous, en fait, des nouveaux carnets, et on crée, je dirais, un nouveau style d'expression qui est entre images et écriture.
Alors, à vous entendre, en fait, il faut avoir envie de partager, de donner, c'est pas que pour vous. Donc on pourrait croire qu'à l'origine c'est un plaisir pour vous puisque vous êtes à tel endroit, mais en réalité c'est surtout l'envie de partager.
Alors il y a beaucoup d'égoïsme quand même, parce qu'on vit des choses particulières, et puis après il faut savoir les vivre aussi, parce que ce sont des démarches qui sont très, très particulières. C'est souvent soit ça à l'autre bout du monde, soit ça dans des conditions particulières, ou alors des sujets qui sont peu abordés. Et donc on a un regard sur le monde qui est d'abord une intention plutôt intimiste et ensuite qui se diffuse. Voilà, c'est presque de l'ordre de l'intention, de l'intuition, en fait. On est de notre époque, on essaie de trouver des sujets de notre époque et de les révéler.
Alors, moi, je m'excuse, je vais vous contredire. Moi, je trouve là un acte généreux et un acte de curiosité et un acte de partage. Et je trouve ça formidable. Donc, ce livre qui s'appelle « Forêt, un peintre au bois dormant », pour moi, c'est vraiment un émerveillement, parce que je n'avais pas l'habitude de feuilleter des carnets. Je n'ai pas eu la chance de feuilleter les carnets ni de Delacroix, ni de Chateaubriand, ni de Léonard de Vinci. Et j'ai maintenant en face de moi quelqu'un qui a fait un carnet, qui est vraiment un bijou au niveau de la peinture et du texte, qui est écrit à la main. Et vraiment, c'est une découverte, puisque en plus, j'ai la chance de connaître cette forêt d'Arfon qui n'est qu'à 1 heure de Toulouse. Alors, je vais continuer mes petites questions. Quand même, vous êtes artiste, puisque vous avez fait les Beaux-Arts, vous avez exposé de la peinture, vos peintures pendant des années. Qu'est-ce qui vous a fait vraiment bifurquer de la peinture classique et des expositions au carnet? Et je vais préciser l'installation à Arfon. Et pourquoi ce choix d'Arfon? Comment est-ce qu'Arfon est tombé sur vous, Christophe Ponce, capitaine?
Alors, la première chose, c'est sur la bascule avec la peinture, parce que moi, j'ai beaucoup pratiqué la peinture contemporaine pendant une trentaine d'années, mais dans mes expositions, en fait, il y avait toujours des carnets personnels de peintres. J'en ai des dizaines et des dizaines. Et ces carnets-là étaient des intentions de découverte, c'est-à-dire... Quand j'étais à l'étranger, je prenais des notes, j'allais voir souvent les musées, je m'intéressais aux populations. Je racontais un petit peu ma vie aussi,
Curieux de nature.
Oui, vous étiez curieux de nature. C'est ça. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'était un moyen de partage qui était beaucoup plus puissant et en fait, j'avais beaucoup plus d'échanges sur ces carnets-là que sur la peinture en elle-même. La peinture, elle a sa part énigmatique et elle se détache. C'est un monde du silence, je dirais aussi la peinture. Même si on aime la décrire, etc. Alors que le carnet, c'est beaucoup plus social. Il est sociable, je dirais même. Il y a une sorte d'amabilité presque du carnet. Étrangement, on lit comme on pourrait lire des notes d'un journal intime. On se on s'épanche, je dirais, sur celui qui a écrit. Et moi, j'ai une souvenance d'un premier comme ça, quand j'étais enfant, des premières lectures d'écrit par exemple sur des petits carnets de Jules Verne, en fait, sur des écrits de Jules Verne avec des images. Et par exemple, c'est tout simple, mais avoir une annotation d'un aventurier et juste un dessin à côté, ben, pour moi c'était un voyage extraordinaire. Je pouvais m'épancher des heures et des heures sur la gravure, et juste avec une phrase prononcée du héros, ça me suffisait pour faire...
Pour partir en rêve.
Oui, oui.
Pour partir rêver.
Oui.
D'accord. Donc, ça a été le point de départ, ça serait Jules Verne, peut-être ?
Alors, c'est ça, c'est quelques... C'est aussi, tout bêtement à l'école, c'est les livres de géographie, d'histoire, c'est ça aussi, l'émerveillement. J'étais pas très bon, très très bon en lecture, je suis pas très très bon élève, mais admiratif au niveau image, à tel point que je me souviens quand j'étais enfant, j'étais en cours préparatoire, j'avais tellement de difficultés à écrire et à lire, que la solution pour mon instit, c'était de me faire copier les illustrations au tableau, en fait. Et donc j'allais au tableau, je faisais en grand l'illustration qu'il y avait sur le livre. Et j'avais déjà, en fait, mes premières expositions, je dirais, ça a commencé à ce moment-là.
En CP, à 6 ans, 7 ans,
oui.
C'est extraordinaire. Vraiment, j'ai en face de moi un artiste depuis toujours.
Eh ben, oui. Moi, je l'avais décidé de très tôt. Hein. Dès que j'étais à la maternelle, c'était clair pour moi. Oui.
Mais la maîtresse, vous avez reconnu, puisqu'elle vous faisait dessiner au tableau les illustrations.
Oui,
ça,
oui.
C'est incroyable,
déjà,
comme histoire.
J'avais déjà ce lien, oui.
C'est quand même une histoire originale.
Oui, un peu particulière.
Un peu particulière, une belle histoire en fait, qui prouve que déjà vous étiez reconnu comme artiste.
Oui, que
les
instits savent voir les enfants d'une manière incroyable aussi. Ils donnent des clés. Moi, je pense que ça a été une des clés de ma vie, oui, aussi.
Ça a été une déclencheuse.
Oui.
Je ne sais pas si on peut dire ce mot.
Oui.
Non, c'est une belle histoire. Je voulais, alors je vais prendre un petit peu le livre, j'ai vu que vous aviez commencé votre expédition dans la forêt des Camaz en février 2021, en plein hiver, en pleine froidure. Pourquoi ce choix ? Parce que si vous connaissiez la forêt des Camaz, chers amis auditeurs, c'est une magnifique forêt, mais on se caille, il fait très très froid, et partir bivouaquer dans la forêt en février avec un hamac et une petite tente en coton ou perlé, enfin plastifié, mais et sans bouillotte et sans chauffage. Pourquoi avez-vous choisi cette date et j'ai vu dans votre introduction que vous aviez trouvé que c'était dur, le départ.
Oui, le départ était important parce que c'était une initiation. En fait, c'est un lieu que je connaissais assez peu, en fait.
Oui.
Je connaissais quasiment rien de cette forêt. Elle se situe au-dessus des Camaz et plutôt autour de Darfon. En fait, ce sont les forêts Darfon, c'est la forêt domaniale, parce que ce qui m'intéressait, c'était de décrire, de rentrer en contact avec une forêt domaniale, c'est-à-dire une forêt qui appartient à l'État. Alors, elle ne nous appartient pas à nous, elle appartient à l'État, c'est l'État qui gère cette forêt-là. Elle n'est pas publique, on pourrait dire que beaucoup de forêts sont publiques parce qu'on peut les traverser, on a le droit de les traverser si elles ne sont pas parquées. C'est la loi qui le permet, pour des raisons de sécurité tout simplement, parce que si vous vous perdez, vous avez le droit de bivouaquer par exemple dans une forêt, mais pas de camper. Bivouaquer, c'est-à-dire vous pouvez passer une nuit, ça vous n'êtes pas dans l'illégalité en fait, c'est une possibilité en fait. Donc la loi permet quand même de faire ça, et souvent c'est un acte de générosité des propriétaires, parce qu'il y a énormément de propriétaires forestiers en France, 75% des forêts elles sont privées, et ces forêts-là sont ouvertes au passage, des passages de randonnée, des passages de GR, sur les forêts de la Montagne Noire, c'est le GR7.
C'est le GR7, c'est ce que j'ai vu dans le livre, oui.
Et qui est magnifique, on peut passer... au bord du canal du Midi, le Lampi, forêt d'Arfon, voilà, c'est vraiment magnifique. Et donc, moi, le mois de février, c'est le mois le plus
glacial,
le plus dur, en fait, et c'est là où je me suis dit, de toute façon, ça sera l'heure de vérité. Soit je tiens, soit je tiens pas. Alors, comme j'avais annoncé mes projets, moi, en général, j'ai une particularité aussi encore. C'est que j'annonce mes projets à tout le monde, à tous mes copains, à tout le monde, en disant « je vais faire ça ». Et ensuite, je suis piégé parce que une fois que j'ai dit ça à tout le monde, il faut que je trouve
les solutions.
Voilà, je peux plus reculer. Il faut que je trouve les solutions et je suis face au réel. Et c'est ça qui me pousse un petit peu à me dépasser et à trouver des solutions. Parce que c'est vrai que...
Oui, ça devait être dur quand même.
Cette forêt-là, c'est du moins 15 parfois dans les courants d'air. Voilà, et c'est assez pluvieux. Et au début, j'étais à un mac parce que, en fait, c'est de la forêt moyenne montagne. Donc, il y a peu de plats. Donc, vous ne pouvez pas planter une tente comme ça en
mais
forêt.
Mais attendez, il faut que je vous arrête. Parce que vous avez dit que vous avez bivouaqué et pas campé.
Oui.
Quelle est la différence entre le bivouac et le
campement, c'est que vous restez sur place pendant plusieurs jours. Moi, le bivouac, c'est
changer tous les jours.
Je change tous les jours au départ.
Bivouaquer veut dire changer tous les jours de lieu.
Oui, vous avez droit. Alors, je ne sais pas s'il y a une durée. En tout cas, je pense qu'il faut se déplacer et puis c'est juste toléré. Ce n'est pas... Et en plus, il vaut mieux avertir les autorités.
Qui avez-vous dû prévenir, en
moi,
fait ?
Moi, personne, en fait.
Vous avez eu de la chance de
alors, pas... Le truc, c'est que j'ai pas mal d'expérience aussi. J'ai été en forêt tropicale plusieurs fois. J'ai quand même pas mal brelingué. J'ai quand même une autonomie, je sais faire quand même aussi. Je suis pas parti en forêt en me disant je sais rien, je sais pas comment me débrouiller.
Et puis d'autres étaient prévenus que vous étiez parti.
Voilà, j'avais quand même mis en place quand même mon réseau de proximité.
Oui.
Mais ensuite, ce que je fais dans ces projets-là, comme ils sont complexes et que la forêt domaniale elle appartient à plusieurs territoires, c'est-à-dire que c'est à la fois le parc régional. C'est des communautés de communes, plusieurs communautés de communes.
Le parc régional du Haut-Languedoc.
Du Haut-Languedoc,
oui, il faut préciser à nos auditeurs, oui.
Oui, c'est le bas du Massif Central. On est là, et la Montagne Noire, elle fait partie du dernier bourrelet du Massif Central.
Oui, ça on
l'oublie. C'est la plus petite des montagnes, vraiment la dernière, la pitchounette, comme on dit chez nous. Mais c'est, elle est juste avant la vallée de la Garonne, entre Narbonne et Toulouse.
D'accord, donc vous êtes parti bivouaquer dans cette forêt d'Arfon, enfin dans cette forêt domaniale d'Arfon, sans prévenir donc les propriétaires de forêt, mais c'est une forêt domaniale aussi, elle appartient à l'État, mais vous avez traversé aussi des bois qui devaient appartenir à des propriétaires.
Alors quasiment pas, moi c'est vraiment la domaniale qui m'intéressait.
C'est vraiment la domaniale.
Et je respectais ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré petit à petit des propriétaires, mais le découpage est net, on peut le trouver sur les communes d'ailleurs, les communes donnent ces informations-là.
Vous pouvez aussi quand demander on est dans la forêt, c'est pas facile.
À l'ONF. Alors après, se repérer en
se
forêt.
Se repérer, comment faire pour se repérer?
Les premières fois, moi, je me suis beaucoup perdu.
Ça paraît normal, hein.
À tel point que j'avais, à un moment donné, je me suis dit, c'est complètement idiot comme projet.
Boussole ou vous aviez,
en fait, j'ai une boussole, une carte. Et aussi, j'ai sur mon téléphone, je peux avoir... mes déplacements en GPS. Mais en fait, la chose la plus importante, c'est pas ça, parce que sur une carte ou sur un point GPS, vous avez juste votre déplacement au niveau longitudinal, mais pas le terrain. En fait, vous savez pas comment est le terrain. Par exemple, vous pouvez vous dire, par exemple, sur une carte que le terrain est descendant. On va appeler ça un travers, c'est-à-dire qu'il est très descendant, il a une pente très forte. Vous ne savez pas de quoi il est constitué, ce terrain.
Attendez,
et si ce sont des ronces, par exemple, vous avez peut-être 100 mètres de dénivelé de ronces qui font 1 mètre de haut, et ça, vous n'en savez rien.
Intraversable.
C'est difficilement traversable. On le fait, parfois, on est obligé, mais c'est compliqué.
Alors attendez, Christophe Ponce, capitaine, je veux vous poser une ou deux questions, parce que nous parlons au grand public.
Oui.
Nous arrivons dans la forêt d'Arfon, comment fait-on, nous qui ne savons rien, avec mon portable, moi je suis perdu, enfin,
alors,
avec toute la bonne volonté du monde.
Alors la première chose, restez sur les chemins, parce qu'il y a le GR7, ça c'est notre premier point de repère.
Oui,
ensuite,
mais
il n'y
a
énormément...
que le GR7, et vous avez fait 4000...
Non, il y a beaucoup de chemins forestiers, vous pouvez les trouver, ces chemins forestiers, ils sont notés...
Bien entretenus ?
Ah oui, ça c'est formidablement bien. De toute façon, là, c'est indéniable, on ne peut pas le faire autrement. Hein, parce que d'accord. Les forêts françaises, elles sont exploitées pour la sylviculture. Et donc, elles ont. Et puis aussi pour la sécurité, si vous avez un incendie, etc.
La sécurité incendie.
Donc,
oui.
on a beaucoup de choses pour aussi la sylviculture, c'est-à-dire faire que une forêt, elle va être entretenue. C'est-à-dire qu'elle va. On a une idée, par exemple, un peu ces temps-ci, en fait, avec toutes les démarches qu'on a sur la biodiversité. Et je m'y intéresse beaucoup, et c'est un de mes grands dadas, parce que c'est la nature, c'est quand même. On ne dit même plus la nature, aujourd'hui on dit le vivant, parce que c'est la nature, elle nous exclut presque de ce paysage. Et on est. Aujourd'hui, on a besoin de retrouver ça, de retrouver du sens avec ce vivant. Et donc, on a un intérêt fort, et en même temps, on a beaucoup de non-connaissances. Et on ne sait pas son histoire. C'est pour ça que moi, je suis allé en forêt pour ça. C'est-à-dire que je ne savais rien. Et je me suis dit, je veux savoir. Je suis un homme du 20e, 21e siècle. J'ai besoin de savoir ce que c'est, ce territoire-là. D'où il vient, parce que moi je me suis intéressé en fait à toute son histoire, c'est-à-dire partir du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, c'est sur un périmètre de 4000 hectares. Donc il y a des ruines, il y a des grottes, il y a des.
C'est fascinant tout ce qu'on trouve sur ces 4000 hectares.
Tout à fait, mais ça, toutes les forêts françaises sont comme ça. C'est notre territoire qui est fabuleux comme ça.
Moi, j'ai cru qu'il n'y avait que la forêt d'Arfon qui était aussi palpitante.
Non. Alors la forêt d'Arfon, c'est vrai que c'est la plus belle du monde. Mais après, à part ça, sinon, toutes les forêts françaises, elles ont une histoire qui remonte vraiment très très loin. On peut passer, c'est ça qui est fabuleux, on peut passer devant trois cailloux en fait. Et ces trois cailloux-là restent des cailloux tant que vous n'avez pas rencontré la personne qui vous racontera leur histoire. Et moi, je suis allé chercher l'histoire de ces cailloux. Donc, j'ai beaucoup demandé, en fait, aux gens du coin. Quand j'étais dans un endroit, je peignais cet endroit-là et après, j'avais besoin de savoir. Donc, j'allais prendre connaissance. La connaissance, elle vient des autres. La connaissance, on ne l'a pas de manière intrinsèque. C'est le cumul à la fois de ceux qui sont vivants et ceux qui ont disparu. Et pour nommer une fleur, des fois une fleur elle est nommée au 14e siècle, elle est nommée au 2e siècle ou au 21e siècle, mais elle va être nommée par quelqu'un qui a besoin de savoir, qui se pose la question et qui va la révéler au genre humain. Nous les humains on a besoin de poser... de nommer, de classifier et d'utiliser en fait et la forêt c'est ce qu'on fait en forêt aujourd'hui il y a des plantes qui sont sauvages pour nous aujourd'hui qui étaient extrêmement utiles à d'autres périodes de notre histoire
qui ont été des plantes médicinales
mais pas que par exemple pour les agents par exemple pour le chauffage il y avait des millions de fagots d'agents qui étaient exploités je dis millions hein, il y avait 1,5 million de fagots au 19e siècle qui étaient coupés et qui étaient proposés à l'ensemble de la région donc tout le monde les utilisait aujourd'hui vous passez vous avez des fleurs jaunes c'est tout. Et les gens sont contents de voir des fleurs jaunes. Et on ne sait pas tout le travail que ça demandait et toute l'utilité que ça avait. Et pourtant, nos anciens les utilisaient tous les jours.
Vous faites aussi, dans le livre, il y a une très jolie peinture de tout simplement une fleur de pissenlit.
Oui.
Et vous expliquez toutes les utilités du pissenlit. Oui. C'est absolument incroyable parce qu'on faisait même du café.
Alors après, on a sur chaque plante, en fait, on peut avoir, moi, quand je vois une plante, en fait, qui m'intéresse, il y en a beaucoup, donc je suis obligé dans mes carnets de sélectionner. Et puis, comme je suis là toute l'année, à la fois, je travaille là sur des choses qui sont des évidences aussi, visuelles, c'est-à-dire... Le pissenlit, si vous êtes au printemps...
Tout le monde connaît.
Tout le monde le connaît et c'était bien de s'y pencher dessus. Et puis aussi, j'ai rencontré une amie d'Arfon qui m'en a parlé. J'étais juste à côté de la fontaine qu'on appelle la fontaine des canons, qui est une petite fontaine qui distribue une eau délicieuse. Et là, en fait, je rencontre Sophie qui me dit « Mais Christophe, est-ce que tu vas déjeuner ici ? Et je lui dis oui. Et elle me dit, ben, tu as toute la salade autour de toi, tu peux prendre ta salade. Il y avait du cresson sauvage, il y avait du pissenlit, voilà, on a fait un petit peu de cueillette, on l'a lavé dans l'eau claire et voilà. On avait une salade merveilleuse.
Vous entendez, chers amis auditeurs, il suffit d'aller se promener dans la forêt d'Arfon pour cueillir sa salade. ce que vous me racontez, là, Christophe Ponce, capitaine, ça va donner des envies aux gens d'aller en forêt et de la regarder différemment. Parce que, en fait, à travers vos propos et à travers la lecture de votre carnet, je me rends compte que nous faisons tout trop vite. Et dans la forêt où, en principe, nous devons aller paisiblement, nous allons encore trop vite. Et c'est dramatique.
On va trop vite et aussi on en connaît peu le fonctionnement. C'est-à-dire qu'une forêt, aujourd'hui, elle est. Alors je dis, c'est de la sylviculture. Imaginez que c'est un jardin. C'est un jardin qui va pousser pendant 80 ans. Et donc c'est une durée. Celui qui plante ne plante jamais pour lui, il plante pour deux générations plus tard. Donc c'est une lenteur incroyable. Par contre, lorsque c'est coupé, c'est un drame parce que c'est un paysage qui va se métamorphoser.
Qui est triste quand ça a été coupé, c'est pas
très joli. Alors on a des coupes aujourd'hui, en plus on a des problématiques climatiques et aussi une pression sur le bois qui est faite pour plein de raisons. Par exemple, la plupart des gens me disent, mais pourquoi on coupe ces arbres ? Chez vous, comment est faite votre maison ? Votre maison est faite de parpaings, de béton, ou avez-vous du bois chez vous ? Et quel bois vous aimez ? Est-ce que vous aimez du contreplaqué ou du bois noble ? Et si, ce bois-là, il vient d'où, d'après vous ? Alors, soit on le prend sur des pays étrangers, on en a beaucoup, des bois exotiques, sinon ce sont nos forêts. Et si on veut des matériaux nobles, en fait, il faut qu'on les puisse les utiliser et puis avoir des circuits courts. Et donc, ce sont nos forêts qui font ça. Et on a une sorte de schizophrénie. On voudrait à la fois des choses qui sont en dehors du plastique, des choses naturelles, et en même temps, on ne voudrait pas couper le bois. Et on voudrait que nos forêts soient des forêts naturelles. Alors, il y a un beau projet de Francis Allais sur une forêt primaire, qui est un projet extraordinaire. Et il faut des forêts primaires. Il faut qu'on retrouve des forêts qui sont quasiment, vraiment en friche et avec aucune intervention de l'homme. Ça, c'est primordial. Mais aussi, il faut prendre conscience de qui nous sommes. Nous exploitons les forêts pour des utilités humaines. Et à nous, à trouver...
Et depuis combien de temps ?
Depuis la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps, c'est ce que vous dites dans votre livre.
Depuis la nuit des temps, on fait ça. Il faut imaginer que déjà, on a le Moyen-Âge, on avait des forêts, on a réussi à faire de l'agriculture parce qu'on a défraîchi. On a enlevé des forêts entières et ça a permis de nourrir de plus en plus de personnes. Et on l'a fait pour ça, on l'a fait aussi pour faire du fer, pour faire du verre. Oui. La base des Pyrénées, par exemple, au XVIIIe siècle, il n'y a quasiment plus d'arbres. On a tout brûlé pour faire, parce qu'on exploitait le fer. Au XVIIe siècle, dans la plupart des forêts en France, il faut couper 200 stères de bois pour 100 kilos de verre. Donc, c'était des exploitations impressionnantes.
Oui,
on a dû gérer ça, ça se fait sous Colbert et on crée l'ONF, en fait, on peut dire, l'ancêtre de l'ONF, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va commencer à gérer un peu mieux, en fait.
Alors, chers amis auditeurs, nous allons faire une petite pause, nous allons écouter un morceau de musique qui est un morceau que Christophe Ponce, capitaine, aime beaucoup, c'est du Schubert. Et c'est exactement quel morceau que vous souhaitez entendre ?
C'est un morceau de la sonate, c'est un petit morceau de la sonate numéro 20 de Schubert.
Voilà, sonate numéro 20 de Schubert, qui inspire notre artiste écrivain.
Thank you.
parole d'auteur. Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs, je reprends la parole pour poser des questions qui me paraissent essentielles après la lecture de ce livre à Christophe Ponce, capitaine. Je voudrais qu'il nous parle des bornes qui sont trouvées dans cette forêt domaniale qui datent certaines du Moyen-Âge et aussi des gentilshommes verriers qui ont habité cette montagne. À vous la parole, Christophe.
C'est parce que je suis peintre et je fais presque un travail d'historien.
Tout à fait, vous êtes aussi historien. Mais tout ça, c'est dans
le
livre.
En fait, je suis pas historien. Hein. J'utilise les connaissances, les compétences qu'il y a en fait autour de la forêt et dans la forêt.
Vous êtes amoureux de l'histoire, quand même.
En fait, je suis curieux de nature, je pourrais dire.
Certainement, c'est mon côté
encyclopédique, je dirais. J'ai été élevé un petit peu à ça dans mon enfance. En fait, on nous faisait quand même pas mal travailler avec des encyclopédies. On avait nos petits...
Oui, mais ça ne vous a pas dégoûté du tout, vous continuez.
Ah non, au contraire, voilà. Parce que c'est passionnant. En fait, en allant chercher la connaissance, on rencontre des gens dans la forêt, autour de la forêt, qui ont un savoir mais phénoménal, phénoménal.
Dans la forêt d'Arfon, chers amis auditeurs, à côté de chez nous.
Mmh. Et tout ce savoir qui est à la fois du savoir de gens dont c'est parfois le métier, et aussi des gens qui sont des passionnés. Donc moi, je m'accroche à eux, je vais les voir parce que ce sont des visionnaires, ce sont des gens qui ont une vision. Quand je dis visionnaire, c'est que ils arrivent à aider à voir dans le futur parce que en sachant ce qui s'est passé dans le passé, on a beaucoup plus de facilité pour se projeter.
Très intéressant.
Et par exemple, sur ce qui est l'ordre des bornes, j'ai rencontré Jean-Michel Doudiès.
Ah oui, alors parlez-nous de ces bornes. Chers amis auditeurs, écoutez bien les bornes. Personne ne sait ce que c'est qu'une borne dans la forêt, à part les gens très, très cultivés. À vous, Christophe.
En fait, même les gens cultivés à l'époque ne savaient pas trop, parce que Jean-Michel Doudiès, lorsqu'il a rencontré les premières bornes, en fait,
c'est un écrivain, Jean-Michel Doudiès.
Oui, et Jean-Michel a se posé les questions. Et on avait, alors comme elles sont gravées, ces bornes, elles ont des signes particuliers sur des granites.
Qui font quelle hauteur, à peu près?
Alors, les plus grands peuvent monter jusqu'à presque 1,80 m, mais la moyenne, c'est quand même des bornes, comme on peut voir, par exemple, sur la route, qui font, je dirais, 50, 60, 70, 80 centimètres à peu près.
Donc c'est du granit sculpté, la plus ancienne date du XIIIe siècle.
Tout à fait.
Et dessus est sculpté, ce sont des
armoiries.
Alors ça c'est très original pour nous de penser qu'on peut aller dans la forêt et trouver des bornes sculptées qui datent du Moyen-Âge et qui représentent
en fait, elles représentent un territoire, c'est le territoire des moniales de Prouille, donc ce sont des moniales qui se sont installées donc au XIIIe siècle, c'est un don du seigneur de Sessac. Qui a fait que juste un petit peu après les guerres, je dirais, enfin de religion, c'est-à-dire j'essaie de retrouver parce que j'ai plusieurs dossiers du coup après il faut que je revienne dans ma petite mémoire pour refaire ça. C'est des retours de Jérusalem par exemple, on avait des croisés et donc il y a eu des intentions en fait de redistribuer des territoires qui étaient des territoires en général très durs, c'est-à-dire que pour créer une sauveté, souvent ce sont des sauvetés, c'est-à-dire qu'on crée une sauveté dans un territoire qui est plutôt dur en fait, où il y a peu de choses, et on va donner ce territoire à des religieux pour qu'ils arrivent à créer de la vie là-dedans et aussi exploiter. Alors il y a des fois des richesses, ce sont des sources mais souvent c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Par exemple, on a des chartreux qui sont dans la forêt de la Loubatière.
Oui, alors ça c'est toujours la forêt des Camas. Hein, c'est...
Alors, juste au-dessus, à côté, cette forêt-là, elle fait 400 hectares, et des chartreux ont tenté pendant une centaine d'années de s'installer dans des conditions effroyables. Il faut imaginer, c'est des conditions avec...
Des loups, du froid, de la neige.
Et puis de la neige pendant plusieurs mois.
Oui, à l'époque, c'était
jusqu'au, vraiment... Même jusqu'au... Vous pouvez avoir jusqu'en 1850 des hivers qui durent de la neige pendant 3 mois, 4 mois sur ces montagnes. Aujourd'hui, avec le réchauffement, ça a absolument tout changé. Mais c'est... Les anciens encore d'Arfon, c'est-à-dire les grands-parents, donc des générations qui ont 80 ans, aujourd'hui se souvient très très bien d'hivers très rigoureux qui duraient plusieurs mois de neige. Hein. Et aujourd'hui, on a, s'il neige 5-6 jours, 10 jours maximum, c'est la panacée. Donc c'est des conditions très, très très dures. Et les moniales, en fait, s'installent et elles déterminent leur territoire. Donc elles bornent le territoire, c'est comme ça que l'on faisait.
Géomètres à l'époque.
Alors ce sont des arpents parce que l'arpent va être créé plus tard, mais c'est une manière de mesurer. Alors c'est pas tous les combien, je pense que on peut en trouver tous les Jean-Michel saurait dire ça mieux que moi, mais je pense que c'est tous les 300 mètres au moins, 300, 400 mètres.
Donc une borne en granit pour délimiter sa forêt. Les bonnes sœurs faisaient
voilà.
ça.
Et alors on mettait l'armoirie côté du territoire.
C'est-à-dire à l'intérieur.
À l'intérieur.
D'accord.
Et c'est pour ça. Et parfois, donc on sait qu'une borne a été déplacée parce qu'elle a été bougée, si ça a été inversé. Parce qu'en fait, en regardant l'ensemble, on pouvait voir. Voilà. Et en face, en fait, il y a des...
Parce qu'il y avait des trafics pour augmenter son territoire, probablement.
En fait, non, c'est plus simple que ça. Non, c'est pas du trafic, c'est juste que ce sont les siècles qui font ça, en fait. C'est-à-dire que ce sont des territoires qui sont... par exemple, la borne, en fait, elle est pas... Elle est à la fois bornage et aussi repérage de chemin.
D'accord.
Le chemin, par exemple, le bornage de la forêt de Ramondens, c'est là où sont les moniales de Prouille. En fait, elles n'y sont plus maintenant, mais elles sont parties, je crois au début du XXe siècle.
C'est-à-dire, quand vous dites qu'elles n'y sont plus, elles ont vendu leur terrain, elles ont donné leur terrain.
C'est en fait, je crois, ou alors je suis pas sûr, je suis pas trop calé sur l'histoire de contemporaine, comment ça a évolué. Mais à l'époque, en fait, elles ont un droit de haute justice, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de condamner à mort, par exemple. Sur leur terrain, elles ont fait la demande au roi, en fait, et elles peuvent le faire. Et aussi, elles ont des responsabilités de productivité, d'entretien. Et aussi de faire régner l'ordre et jusqu'à la haute justice.
Parce qu'à l'époque, c'était peuplé, en fait. C'est ça qu'il faut dire
aussi. En fait, il y a du passage. Alors, quand on dit une communauté, c'est 60 personnes. Mais dans la forêt, à cette époque-là, c'est important. C'est important, 60 personnes. Ensuite, par contre, elles font ces 60 personnes qui travaillent, qui produisent et qui aident aussi d'autres territoires qui sont parfois en difficulté ou la même communauté qui va être installée plus bas, par exemple. Et ils font des échanges. Certains exploitent le bois ou alors il y a beaucoup de pastorales aussi. Donc il y a des...
beaucoup de troupeaux.
Oui, bien sûr. Ouais.
Oui, c'est pas trop froid. Moi, je pensais qu'elle l'exploitait surtout pour le bois, parce que quand même.
Non, il y a du pastoral, et le pastoral, il est réglementé aussi très très fortement.
Oui.
Vous pouvez être condamné pour avoir laissé paître vos animaux en forêt, parce que c'est parce qu'ils ont mangé la production du, par exemple, ce soit des glands ou des faines. Les faines, ce sont les fruits des hêtres. Et à l'époque, ça a une valeur considérable.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque aussi, on n'était pas tendre.
On était oui, mais aussi, il y avait une force de nécessité. C'est-à-dire que c'était très important. C'est un équilibre fragile. Il y a beaucoup de communautés qui tentent, des gens qui tentent de vivre dans ces conditions-là et qui n'y arrivent pas. Et il faut un équilibre entre ce qu'on va trouver. Ça, réglementer un territoire, c'est arriver à trouver... entre loisirs, je veux dire, enfin, en tout cas bénéficier du territoire, ce que va donner le territoire, et puis le réglementer pour qu'il soit pérenne. On vit ça aujourd'hui, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on essaie de se dire, est-ce que la productivité du vivant, en fait, est suffisante, et notre pratique, c'est-à-dire notre manière d'être au monde, nous les humains, on est à la fois consommateur, destructeur, et en même temps, on essaie de faire... De produire et on arrive parfois à des moments de crise. Et ça nous est arrivé dans toute notre histoire énormément de fois. C'est-à-dire le moment où, en fait, notre productivité, où notre croissance, elle se met en crise et on est obligé de trouver d'autres solutions parce qu'en fait, on n'est pas en harmonie avec le vivant. Et donc, ça, on l'a fait plusieurs fois. Et aujourd'hui, on le fait. C'est ce qu'on se pose la question. Est-ce qu'on va périr parce qu'on ne sait pas produire et on ne sait pas consommer correctement, en fait, notre monde.
Donc, en fait, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, ce n'est pas du tout des problèmes contemporains, ça a toujours existé à travers l'histoire.
Bien sûr.
Donc, c'est normal d'avoir des crises aussi.
Mais bien sûr,
c'est tout à fait normal. C'est assez rassurant, quand même.
Bien sûr, on a connu des pestes, on a connu des famines, on a connu des guerres parce que on était incapables, enfin, incapables. On était face à des crises, c'est-à-dire que on arrive à croître et à augmenter, à être assez nombreux, mais ensuite, la surface qui est exploitée, elle est exploitée d'une certaine manière qui ne permet pas, en fait, à la population d'arriver à vivre en harmonie. Et l'harmonie, c'est la chose la plus importante, c'est arriver à trouver
la chose essentielle.
Et la nature, elle nous donne, c'est elle qui donne le tempo. C'est elle qui gère tout. Sans cette production extraordinaire de la nature, qui est gratuite, qui est phénoménale, qui est d'une intelligence incroyable, qui s'adapte à tellement de choses, nous on ne peut rien faire, absolument rien faire. On est incapable de produire, nous, l'humain, sans la matière que produit la nature, on ne fait rien du tout, on est dans le vide.
Je reconnais là votre côté philosophe que j'ai lu à travers le livre plusieurs fois, où j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de philosophie et que vous étiez un humaniste, philosophe, artiste peintre, et ça ne me surprend pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Comme malheureusement le temps passe vite, je voudrais aussi que vous nous parliez des gentilshommes verriers qui étaient sur cette montagne noire, toujours à Arfon, à 1h30 de Toulouse, dans cette forêt. Il y a eu au XVIIe et XVIIIe siècle, je crois, la famille de Robert.
Tout à fait.
Entre autres, puisqu'on peut la retrouver aussi au musée du verre qui est installé à Sorèze, chers amis auditeurs, il faut absolument aller voir ça, en plus de la forêt. Parlez-nous de ces gentilshommes verriers qui avaient besoin de tant de bois pour faire 100 kilos de verre.